Je pense que je reconnais des gens, mais je connais personne. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Game Radio. Alors ici Shoham en compagnie donc de Nico et nous sommes alors actuellement à la FNAC de Saint-Lazare. La FNAC de Saint-Lazare où actuellement il y a une exposition dédiée entièrement à Metal Gear Solid. Alors qu'est-ce que ça peut être une exposition dédiée à Metal Gear Solid ? Il s'agit simplement d'afficher des dessins et des reproductions de l'œuvre originale de Kojima, puisque nous avons donc sur les murs et un peu partout dans la pièce des compositions absolument magnifiques, faites au dessin, donc aucune image numérique, mais vraiment des beaux, très 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 beaux dessins que vous n'avez certainement jamais vus nulle part. Alors nous allons un petit peu tourner autour de cette exposition, du vernissage, puisqu'il y a énormément beaucoup de monde, un petit peu le gratin du monde du jeu vidéo certainement. Alors je ne connais pas grand monde ici, Nico non plus, mais en tout cas nous avons au moins l'avantage de voir de magnifiques pièces. Alors il s'agit, on est devant par hasard, hein. Une première pièce, il s'agit d'une reproduction de Kojima tout simplement, qui est un dessin de Solid Snake et de Liquid Snake. Je pense que en fait on connaît tout à fait le style de dessin, le style graphique, mais on n'a vraiment jamais vu en vrai les dessins avec le crayon qu'on peut admirer, la patte Kojima. On va un peu se balader. Donc là vraiment des images du jeu, mais telles que en fait l'a imaginé Kojima avant de le passer en numérique. Alors je fais rapidement. J'ai The Big Boss qui est devant moi. J'ai April qu'on connaît tous, qui est l'héroïne, finalement la seule héroïne de Metal Gear Solid. Enfin, je parle pas bien sûr de Wolf, mais de April, la gentille. Bien sûr. Encore des images de Big Boss, de Revolver. Excuse-moi. Je connais pas très très bien l'univers de Metal Gear Solid au point de connaître tous les personnages, mais en tout cas la patte graphique est assez belle. Je vais peut-être commencer à faire des petites interviews. Excusez-moi. Non, mais c'est pas une interview, c'est juste vous donner vos impressions, ce que vous en pensez. Vous connaissez pas du tout Metal Gear Solid ?
Non, du tout. Là, je me suis perdu. En fait.
Ah bah c'est perdu. Vous êtes là, on sait pas pourquoi. Peut-être Mademoiselle, alors peut-être me dire. Vous connaissez Metal Gear Solid ? Ici, il y a une exposition Metal Gear Solid, un peu des images qu'on a jamais vues en fait en France. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Est-ce que ça va un petit peu ouvrir le monde du jeu vidéo un peu plus à un autre public?
Oui, je pense c'est bien de pouvoir ouvrir à tout public ces œuvres, qu'ils puissent regarder et que ça soit pas réservé simplement aux Japonais.
Et vous pensez que des Français, même des gens qui connaissent pas du tout le jeu vidéo, les artistes vont venir et vont dire ah ouais, quand même le jeu vidéo c'est autre chose?
Bah oui, enfin c'est pas tout à fait pareil, parce que le jeu vidéo, quand on voit les artworks, c'est une autre interprétation, c'est différent.
D'accord, c'est différent dans le sens où là il y a vraiment pas du tout d'image numérique.
Voilà, c'est tout du travail main, c'est fait directement par l'artiste, c'est beaucoup plus, enfin c'est pas plus expressif, mais c'est le travail direct de l'artiste et c'est toujours mieux que l'interprétation d'un designer ou quelque chose comme ça.
D'accord. Et vous aviez déjà vu ces dessins ici auparavant ou c'est la première fois que vous en voyez ?
Ceci
par exemple, qui est une reproduction de Liquid Snake, voilà, qui est certainement un des premiers artworks avant la sortie du jeu, du 99 d'ailleurs, voilà, c'est daté. Est-ce que vous connaissiez un petit peu tous ces artworks ?
Oui, parce qu'ils étaient en vente en fait. Ça c'est le nombre d'exemplaires, c'est 99.
D'accord, moi j'y connais rien donc je me suis planté, merci de m'avoir au moins repris.
Et en gros, donc il y a 4 différents artworks et ils sont tous tirés à 99 exemplaires et ils étaient en vente dans une quantité limitée sur le site de la FNAC. Et donc il y avait possibilité de les acheter.
Ah oui, d'accord, donc au fait.
Il y avait déjà un visuel de ces 4 aussi.
D'accord, ok, oui, donc oui, effectivement, d'accord. Donc c'est vraiment des reproductions qui ont été refaites, qui sont quand même limitées.
Mais qui sont signées par la main d'Hideo Kojima et de Yoji Shinkawa.
D'accord, ok, bah vous m'en dites un peu plus parce que je ne connaissais pas du tout en fait d'où venaient ces reproductions. En tout cas, merci beaucoup, puis très bonne visite, très bonne exposition, à bientôt. On va continuer notre visite, rencontrer un peu des gens qui tournent autour. Alors je vais pas vous faire toute la description de toutes les artworks parce qu'il y en a énormément. Et puis de le décrire, ça me donne pas vraiment la visuelle de, de ce qu'on peut avoir. Mais je vais peut-être m'insérer dans un groupe de discussion pour avoir un peu les avis. Excusez-moi, on est pour Game Radio. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions un petit peu sur l'exposition?
C'est sympa de faire des expositions comme ça sur les jeux vidéo. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Ici, c'est l'univers de Metal Gear Solid. Bon, moi, c'est vrai que Metal Gear Solid, moi, je l'ai connu en regardant mon frère jouer d'abord. Moi, Metal Gear Solid, quand on parle de Metal Gear, qu'est-ce que je pense direct? C'est les rubans rouges à la fin du jeu, le petit tips quand il faut suivre la nana aux toilettes pour la voir déshabillée.
Des bons souvenirs, ça, hein, des bons souvenirs de gamer, ouais.
Moi, Metal Gear Solid, c'est tout ça. Ensuite, c'est vrai que le jeu, il a beaucoup évolué. C'est passé en mode survival, dans la forêt où il faut survivre. Il fallait même éteindre la console, rejouer le lendemain pour se soigner. Ah, c'est une grosse série Metal Gear, et c'est normal qu'aujourd'hui elle soit récompensée avec une exposition comme ça sur Paris, le 17 avec Hideo Kojima.
D'accord. Ah bah oui, effectivement, il y a le 17 juin, on en reparlera plus tard. Est-ce que là ici en fait, on est dans une exposition, il y a vraiment aucun écran, aucun visuel numérique. Est-ce que vous pensez que ce genre d'exposition peut attirer des personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo, qui sont à la base pas du tout intéressées par tout ce qui est numérique, et plus des artistes, vraiment des peintres, etc., qui pourront ouvrir au jeu vidéo et dire « Ah ouais, le jeu vidéo quand même, c'est autre chose ».
Bah, aujourd'hui, de plus en plus, on considère le jeu vidéo comme un art à part entière, mais c'est un art qui a le bénéfice d'être assez transversal, c'est-à-dire que ça peut être vidéo, ça peut être audio. Aujourd'hui, on vend les soundtracks des jeux vidéo, et il y a le dessin, parce qu'il y a tout un travail en amont, et c'est un vrai travail d'artiste, autant qu'au cinéma ou dans le dessin tout court. Et non, mais c'est vraiment un art qui va grandir et qu'on peut connaître sous toutes ses formes.
D'accord. Effectivement, il y a différentes morts, donc il y a l'audio, il y a les dessins, et il y a tout après l'imagerie numérique, etc. Et pour en venir donc à la série Metal Gear Solid, vous connaissiez un petit peu le dessin qu'avait fait Kojima et qu'on voit ici, ou pas du tout? C'est vraiment une surprise pour vous de découvrir ce que faisait en dehors des jeux vidéo, ce que faisait monsieur Kojima?
Bah non, moi pas du tout, je connaissais pas du tout les dessins. J'en ai appris la connaissance hier en fait chez Amusement Magazine, qui est un magazine haut de gamme sur les loisirs numériques. Et donc on a été invité pour l'inauguration et pour voir cette
ce vernissage donc.
Ce vernissage en avant-première donc.
D'accord, donc une vraie priorité, un vrai honneur en fait de venir ici pour la toute première fois et de voir ça pour la toute première fois.
Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir et ça change notre point de vue sur le jeu vidéo et ça offre un point de vue nouveau et ça fait du bien d'avoir du neuf dans cette industrie.
Effectivement, merci beaucoup, puis profitez bien des petits fours parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde je pense, on n'en a pas eu. Merci beaucoup. Donc on va continuer notre visite auprès du monde. Excusez-moi, je prends sur le côté comme ça. C'est pour Game Radio.
Ouais. Voilà, là. Ah tiens, Game Radio.
Ah tiens,
les gens qui ont dit que Gameblog voulait prendre de l'argent aux gens.
Non, on n'a pas dit ça. On a émis des hypothèses et on n'a pas eu de réponse. C'est vrai.
Parce que vous nous avez pas appelé.
Mais on n'a pas. On connaît pas votre numéro.
Ben, je vais pas le donner là comme ça à l'antenne, mais vous pouvez nous envoyer un mail. Non, mais on aurait été ravis de vous répondre.
Ah bah donc, non, mais avec plaisir. Avec plaisir. En plus, on a eu quelqu'un qui nous avait dit, qui était.
Pix and Love
qui nous avait dit oui, c'est pas vrai, etc. Game... On dit pas de problème, tu viens dans une émission, on en discute.
Pose-moi tes questions si tu veux.
Il y a pas de problème.
Plaisir parce que le premium, on le lance là maintenant tout de suite.
Ah bah, on va faire l'avenue de Pierre de Cour. On va peut-être d'abord parler du vernissage et puis après on parlera de Gameblog avec plaisir.
Ah bah c'est ton émission, hein, tu parles de ce que tu veux.
Ah bah exactement, en plus je fais ce que je veux exactement. Non, on va parler d'abord du vernissage de Metal Gear Solid puisqu'on est là. Donc journaliste Gameblog j'imagine, cofondateur de Gameblog, ouais. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Qu'est-ce que en fait représente l'exposition pour nous les Français, l'exposition sur Metal Gear Solid, alors que finalement c'est un peu première fois qu'on a toute une salle dédiée aux jeux vidéo et sans écran numérique. C'est un peu la première fois.
Mais déjà c'est bien, c'est une bonne chose que ça soit fait avec les œuvres de Yoji Shinkawa. Je pense que c'est vraiment bien parce que c'est des œuvres accessibles. Il a un trait, un style vraiment mais unique. Moi je me dis voilà, je suis pas gamer. Alors moi je suis gamer mais je me transpose, je suis dans la peau de quelqu'un qui n'est pas gamer. Je rentre dans cette pièce et tout. Bon alors peut-être que je comprenais pas exactement de quoi on me parle. Mais en tout cas, je vais voir qu'il y a du style. Et derrière, si quelque part on m'explique genre voilà, c'est les œuvres préparatoires à un jeu vidéo, etc. Je vais me dire oh putain mais merde. Ça a vachement progressé le jeu vidéo. Pourquoi ils font des trucs préparatoires? Pourquoi c'est vachement chiadé? Pourquoi c'est beau en fait? Et voilà, c'est ça que je retiendrai, c'est que c'est beau. Après, on aime, on n'aime pas, c'est très subjectif. Mais il y a vraiment un style Yoji Shinkawa que moi personnellement j'apprécie beaucoup et que je trouve transparaît vraiment dans les jeux des Metal Gear. Parce qu'après, Metal Gear, on aime, on n'aime pas. Généralement, c'est plutôt soit pour le gameplay, soit pour le scénario. Mais en tout cas, le style visuel, généralement, fait quand même assez l'unanimité. C'est des valeurs de production qui sont très élevées. Et ça, on ne pourra pas leur retirer. Donc, je trouve que c'est très bien qu'ici, à la FNAC Saint-Lazare, en plus, c'est bien parce que c'est eux qui vont accueillir, Yoji Shinkawa et Hideo Kojima le 17 juin, qui vont venir ici en France dans leur World Tour pour dédicacer. Et ben, je me dis que peut-être que du coup il y a 2-3 personnes qui vont venir dans cette pièce avant, après, etc., qui vont voir ça. Et c'est une belle manière de découvrir Metal Gear pour ceux qui ne connaissent pas et pour surkiffer pour ceux qui sont des fans.
D'accord, bon, finalement, effectivement, ça peut attirer des artistes qui ne connaissent pas du tout, enfin, ou même qui sont même pas du tout intéressés par le numérique.
Bah oui, en tout cas, c'est l'évolution, à mon sens, naturelle du jeu vidéo. C'est honnêtement, les verrous sont en train de sauter les uns après les autres. Après, c'est pareil, la Wii. Beaucoup de personnes parlent de casual, de machin, que ça fait du mal aux jeux vidéo, parce que... Ça, c'est la vision ultra hardcore gamer, que je peux comprendre totalement, parce que moi, par exemple, j'ai une Wii, j'avais plein d'espoir, plein d'espérance, et au final, j'y joue très rarement. Mais quand j'y joue, je m'amuse. Et surtout, pour la première fois de ma vie, j'ai joué avec mes parents, et ils se sont amusés, ils ont compris tout de suite. J'ai joué avec mes sœurs, ils se sont amusés, ils ont compris tout de suite, avec des potes qui sont pas gamers, etc. Et donc, voilà. Pour moi, quand t'es gamer, faut justement ouvrir les bras, se dire que justement, on est plus heureux d'être plus nombreux. Et ça, c'est une partie du jeu. Et puis, il y a d'autre côté, les jeux un peu plus gamers, les Metal Gear en font partie. Et là, il y a des valeurs de production vachement plus élevées, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus soigné. On est beaucoup plus dans quelque chose de hollywoodien, quelque part, dans l'approche. Et je me dis que les gens qui rentrent là-dedans, quelque part, ils ont l'impression d'être une pièce un peu making-of, quoi. Un peu comme on voit les estampes pour les grands films de cinéma. Et bah, c'est chouette de se dire que, voilà, d'un côté, on a des gens qui sont peut-être en train de découvrir le jeu vidéo de manière casuale et ils vont peut-être... S'il y a 10% de ces gens-là qui, au bout d'un moment, se disent mais il y a peut-être autre chose dans le jeu vidéo et qui vont essayer un Metal Gear, essayer un d'autres jeux et peut-être vont devenir adeptes, et bah tant mieux, voilà.
Est-ce que le Japon, enfin, considère l'Europe comme un pays qui n'est pas juste une vache à lait, mais où on peut emmener des beaux dessins et qu'il y a du monde qui va venir voir? Est-ce que c'est enfin une consécration pour nous?
Mais alors, tu sais, moi, je pense pas que les développeurs japonais nous aient jamais conçus comme une vache à lait pour la simple et bonne raison, c'est que pendant très longtemps, ils sortaient pas les jeux chez nous. Donc si on était des vaches à lait, ils auraient sorti les jeux chez nous à la vie va vite en disant ramenez de la thune, puis c'est tout. Non, non, je pense qu'au contraire, en plus, depuis quelques années, il y a une vraie crise au Japon du jeu vidéo. Le jeu vidéo se vend moins. Et puis surtout, le marché qui a explosé, c'est le marché américain, marché occidental. Et puis si on cumule tous les pays européens, on est à peu près à l'équivalent du marché américain, à peu près, un petit peu moins. Et donc bien devant le marché japonais. Donc après, ils sont pas cons, hein, les Capcom, les Konami, ils se rendent compte qu'ils vendent bien plus en Occident que sur leur propre territoire. Et ils commencent vraiment à faire des efforts. Vraiment, moi je le sens. Les adaptations, elles sont faites de plus en plus vite. Les jeux arrivent. Avant, il fallait attendre un an et demi. Parfois jamais. Ou toujours, en l'occurrence. Là, maintenant, les jeux arrivent quasiment à des sorties mondiales. Parfois, les jeux sortent d'abord chez nous. On l'a vu avec Final Fantasy. D'habitude, c'est un an et demi à attendre. Là, ça a été quoi? 3 mois? Bon. Avec les adaptations qui sont faites dans toutes les langues. Donc, il y a des vrais efforts qui sont faits. Il y a même des personnages français maintenant dans les jeux japonais, comme on le voit avec Metal Gear Peace Walker. Et Cécile Kozima Kaminales.
On avait déjà eu dans Onimusha avec Jean Reno, hein.
C'est vrai. Mais c'est à chaque fois des petits clins d'œil sympathiques. Donc ouais, non, je pense pas qu'ils nous prennent pour des vaches à lait. Je pense juste qu'ils ont enfin pris conscience que l'Occident était important. Ils ont peut-être mis le temps, mais à la fois, on va pas leur jeter la pierre si enfin ils le réalisent. Donc c'est bien, ça avance une fois de plus.
D'accord. Bah, on va parler un peu plus de la France, de Gameblog. Allez, on va aller.
C'est pas, je m'oblige pas à parler Gameblog.
On va parler Gameblog parce qu'on va enfin s'expliquer parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Moi, j'ai été dans le débat. Hein. J'ai été dans le débat. J'ai pas voulu trop m'insérer. C'était plus effectivement des théories en fait, parce qu'on avait.
C'est ça. C'était
réponse.
Beaucoup. Je pense que. Et puis 2 secondes après, c'était. Alors c'est ça.
Parce que nous, en fait, on a vraiment le visu de l'utilisateur. Ouais. Voilà. On n'avait pas d'autres expressions. On s'est dit, ouais, bon, peut-être qu'il va se faire ça. Non, mais en fait, ils n'ont pas d'argent. Mais en fait, on sait pas. On sait rien du tout. Alors justement, Gameblog, comment ça se passe déjà financièrement? Est-ce que vous avez des problèmes d'argent ou finalement c'est un petit bonus que vous faites pour vous donner plus de contenu encore?
Alors, pour répondre sans aucune langue de bois, Gameblog n'a pas de problème d'argent. En revanche, Gameblog n'est pas rentable. Gameblog, pour évoluer, pour grandir, et ne serait-ce que même pour vivre, comme toute industrie, comme toute entreprise qui finalement est très jeune, on n'a que 3 ans, et en plus sur Internet, qui est un milieu où c'est incroyable, les gens pensent que tout est gratuit. Moi, je ne cesse de le dire, c'est-à-dire que si vous considérez qu'on est des journalistes de merde, qui vous ont de la merde, qui sont inintéressants, etc. et tout, et que donc on ne mérite pas de salaire, même petit salaire, eh ben effectivement, dites-vous que effectivement c'est gratuit. Mais si vous dites que Gameblog vous intéresse, parfois, pas toujours, hein, y a des trucs qu'on fait probablement complètement imparfaits, mais que en tout cas notre travail vous intéresse, eh ben il y a encore quelques années, les gens achetaient des magazines et les achètent encore aujourd'hui cher, hein, 6, 7 euros. Aujourd'hui, Internet c'est gratuit. Alors les gens disent, mais c'est pas gratuit, puisque je paye un truc pour Free, pour Nous, etc. Ouais, sauf que de cet argent-là, nous on en touche absolument zéro. Et personne qui travaille sur Internet n'en touche ne serait-ce qu'un centime. Les rédactions, faut bien les faire vivre. Aujourd'hui, Gameblog est arrivé à un point qui est une étape vraiment charnière. Ça veut dire qu'on est plus petit, on est plus moyen, on commence à devenir gros. Et que du coup, bah forcément, quand tu commences à devenir gros, tu n'as plus du tout les mêmes problématiques que quand t'es petit et que tu te dis, ouais, je peux être en retard sur les news, je peux être en retard sur les tests, on l'a été pendant longtemps. Hein. Je peux faire ça un peu, entre guillemets, en dilettante, ou si un jour il y a moins de choses, c'est pas grave, etc. Non, parce que t'as désormais une audience. Et puis quelque part aussi, et c'est tout à fait naturel, plus tu grandis, plus t'as envie d'en faire plus t'as envie de le faire bien, plus t'as envie d'être vraiment pro, plus t'as envie d'avoir les meilleurs reportages, les meilleures choses. Et c'est ce qu'on essaye, et c'est ce que je pense qu'on offre aujourd'hui, même s'il reste plein de choses à faire. Là, on a eu exclusivité mondiale du reportage chez Kojima Productions. Personne, aucun Américain, Japonais, etc. n'a eu cette visite. On est les seuls à l'avoir eu. Kojima, on l'a eu en interview, Yoji Shinkawa, on a eu plein de choses, on est allé chez Quantic Dream en exclusivité, etc. Ça, jamais à aucun moment on nous paye ou on ne paye, c'est nous qui faisons des demandes, elles sont acceptées, elles sont pas acceptées. Néanmoins, bah voilà, maintenant quand tu draines une audience, derrière il y a des gens qui travaillent. Au quotidien, Raan, Julo, Poufi, moi, Mr. P, Trazom, voilà. Bon, je t'assure vraiment qu'on se prend pas des salaires de ouf, mais alors vraiment pas. Mais néanmoins, bon bah c'est quelques milliers d'euros. Quand c'est des milliers, c'est plus proche du 1 que du 4. Hein. Mais c'est quand même de l'argent. Après, il y a les gens qui disent « Oui, mais ce qui coûte le plus cher sur Internet, c'est les serveurs. » Bah non, c'est pas vrai. Quand tu deviens très gros, les serveurs, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, c'est 500, c'est un petit millier d'euros par mois. Franchement, si c'était ça notre problématique, il n'y aurait aucun problème. Mais sauf que derrière, après, bah, il faut des pigistes. Les pigistes, tu les payes. Et je t'assure que vraiment, on rêverait que d'une chose, c'est de les payer mieux. Ils sont pas extraordinairement bien payés. Mais bon, tu grossis, puis à la fin du mois, tu fais tes comptes. Pour qu'une rédaction vive, il faut un lieu. Bah, le lieu, on l'a pas gratuit. Donc à la fin du mois, ça coûte X. Et aujourd'hui, bah, on a des revenus qui viennent de la publicité. On en a infiniment plus que ce qu'on avait il y a encore un an. Et on espère en avoir infiniment plus que ce qu'on en a aujourd'hui dans un an. Mais aujourd'hui, quand tu fais le égal, eh bah, ça fait moins à la fin. Donc il faut trouver des systèmes qui permettent d'avoir des revenus pour pouvoir espérer continuer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'étoffer. Voilà. Donc c'est normal aujourd'hui qu'on perde de l'argent. Ce qui ne le serait pas, c'est qu'on en perde dans 2 ans ou dans 1 an, etc. Puisque dans ce cas-là, bah, c'est humain, on continuera pas. Ou on fera autre chose, ou on divisera la rédaction. Et du coup, le site va commencer à péricliter. Et voilà. Donc, le premium pour nous, c'est bien évidemment pas pour s'en mettre plein les fouilles. Et vous allez voir qu'on va l'annoncer là, je sais pas quand tu vas diffuser le truc, mais c'est avant le 3. Ça va vraiment pas être des tarifs de ouf, hein. On est vraiment pas cher et je pense que l'offre elle est vraiment sympa. Il va avoir à la fois des bonus en termes d'interface, des bonus en termes de consommation pour les utilisateurs et des bonus en dur, des choses que vous allez recevoir chez vous, des magazines que vous allez recevoir chez vous. Ça, c'est, pour nous, c'était très important. Et surtout et avant tout, il n'y a rien du site actuel de Gameblog qui va disparaître. Aucune actualité, aucune vidéo, rien. Rien, rien. Et à l'avenir, il n'y aura rien qui sera dévolu au premium. Je le sais, et c'est normal. Franchement, je me mets à la place de vous et j'ai écouté le podcast que vous avez fait sur Game Radio en intégralité. Alors, ça nous a fait sourire un peu parfois, ça nous a fait un peu grincer des dents parfois. On s'est fait putain et des dealers de drogue parce
c'est
qu'on
fait
a habitué.
C'est fait exprès. Ouais, c'est mais c'est bien. Nous voir.
Mais appelez-nous. C'est le boulot du journaliste. Hein.
Non, mais bien sûr.
Tu nous appelles, tu nous envoies un mail. Franchement, tu vois, je te réponds sans aucun problème. Mais c'est pas pour se foutre de l'argent plein les fouilles, c'est juste pour équilibrer les choses, pour faire que ce soit pérenne. Et donc, cet abonnement, c'est avant tout un soutien. Des gens qui auront compris, qui aiment vraiment Gameblog et qui ont envie d'apporter un petit peu leur pierre à l'édifice. Et ceux aussi qui auront compris qu'il y a quelques années encore, et même encore aujourd'hui, on paye des magazines qui, quelque part, offrent pas forcément vachement plus de choses que Gameblog offre au quotidien et que ça, tout ça a un coût. Et qu'il faut le comprendre, et que dans ce monde où tout a l'air d'être gratuit, en fait, il y a plein de gens qui travaillent, et que c'est normal que tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire.
Tout à fait d'accord. Maintenant avec l'explication, on comprend tout à fait le problème. Alors, je crois qu'en fait, véritablement, le problème que vous avez eu, c'était peut-être un problème de communication. Vous avez mis un petit article, tout petit, qui disait, de toute façon, vous n'avez pas le choix, le premium, ça sera comme ça, qu'est-ce que vous voulez?
Alors, je dis non.
Et en fait, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de posts, je pense, juste après, c'est que justement, il a été très très mal compris et très mal perçu.
Très mal perçu, très mal compris, on s'en excuse si on a été maladroit, etc. C'était pas du tout notre but. À la fois, j'avais envie de tourner les choses dans un autre sens.
Combien de sites? Parce que mine de rien, on est patron aussi, tu vois, on est journaliste, mais on est patron de notre entreprise. Combien de patrons demandent aux gens qui viennent les voir, on va faire un truc, mais avant de le faire, avant de vous l'imposer, bah justement, pour pas vous l'imposer, on vous pose des questions et on vous demande à peu près dans quelle fourchette à peu près vous êtes, qu'est-ce que vous aimeriez voir là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, surtout, échangez dans le forum, dites-nous ce que vous en attendez, etc. Je te jure que nous, on a lu tous les messages. Par exemple, on n'est pas les seuls à faire des premiums, hein. Il y a des games cultes, etc. Je pense qu'ils n'ont jamais demandé la question. C'est arrivé du jour au lendemain, bim. Nous, je t'assure que vraiment, un, on a pris en compte nombre de demandes, pas toutes, forcément. Il y a des demandes, tu sais, si on avait demandé, vous voulez que ça coûte quoi, 10 centimes d'euros ou 10, bah, tout le monde aurait dit 10 centimes d'euros, forcément. Et je t'assure que ce ne sera pas 10 euros. Ce ne sera même pas 5, c'est en dessous. Donc on a pris le maximum d'informations là-dedans, parce qu'on est bien conscient, parce que avant tout, je peux vous assurer que les rédacteurs et les cofondateurs de Gameblog, on est vachement à l'écoute de la communauté. Pas de tout, il y a des trucs qu'on trouve, on n'est pas d'accord. Il y a des trucs qu'on trouve mal exprimés, et il y a des trucs sur lesquels on dit, ouais, on s'est mal exprimé, nous, ou on a merdé, nous, et on va faire en sorte que ce soit bien pour vous, les lecteurs. Parce qu'on est intimement persuadés, c'est pour ça que par exemple tout le contenu de Gameblog restera le même contenu que Gameblog, c'est que si on existe, c'est grâce aux lecteurs. C'est pas nous, on n'a aucune idolâtrie personnelle, je pense vraiment pas d'ego ou de grosse tête, on essaye juste de faire notre passion à fond, de la faire partager le plus possible, etc. Donc tout ça, on l'a bien pris en compte. Si derrière on n'a pas discuté ou revenu dessus, etc., c'est qu'on n'avait pas annoncé de choses pour l'instant. Parce que pour nous, c'était pas clair encore. On savait qu'on allait faire le premium, on avait énormément d'idées sur comment le faire, où le faire, quoi mettre à l'intérieur, et après c'était de la discussion. On s'est fait entre nous des briefs, etc., et on l'a fait évoluer. Maintenant, ça y est, on est quasiment prêt. On va l'annoncer, on va essayer de le faire bien. Voilà, ça fera forcément grincer certaines dents, et on l'espère. D'autres le comprendront, et ce sera bien. Voilà.
Ah, très bien. Bah, merci pour cet éclaircissement qu'on diffusera bien sûr sur Game Radio. Vous reviendrez nous voir, on en discutera.
Vous passerez nous voir un jour sur les podcasts.
Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Je crois que Guy sera ravi. Et puis,
envoie-moi un mail, etc., un MP sur le site. Et puis on fera ça. Nous, vous le savez en plus, nous on est ultra ouvert à la communauté, etc., et c'est pas une posture, c'est pas juste pour dire genre nous la communauté on aime ça. Il y a des gens, non mais ça nous a, franchement je te jure, ça nous a un peu blessé quand justement pour ce sondage là les gens ont dit oui Gameblog vous parlez de la communauté mais regardez là on n'est pas content et puis vous réagissez pas, etc. Oui, mais le truc, quand t'as une entreprise tu peux pas tout dire n'importe comment, répondre à tout le monde, etc. Non, il faut aussi un peu de recul et se dire ok, ça vous assure je vous écoute, mais je vais pas envoyer un message en disant on est en train de vous écouter. Non, je vous assure qu'on vous écoute. Maintenant, nous, on est une éponge, on va boire beaucoup de vos commentaires, on va se laisser un petit peu de temps de faire le tri, etc., et de bien comprendre. Donc c'est pareil, voilà, nous, Game Radio, on écoute, hein, sinon je serais jamais tombé dessus. Et voilà, et nous, tous les mois, on fait un bilan de l'actualité, on invite des gens qui ont des blogs influents ou qui font des choses, qui sont passionnés de jeux vidéo, parce qu'une fois de plus, Gameblog, c'est nous, oui, bien sûr, mais les passionnés de jeux vidéo, il y a la zone communauté et blog, les blogs perso des lecteurs, etc. Et ben on vous invitera, donc tu m'envoies un MP et je t'assure que je m'y engage qu'à la rentrée vous serez là.
Ah, pas de problème, en tout cas nous on aime beaucoup ce que
à
vous
la fin
faites.
Après nous avoir défoncé pendant une heure.
Non mais c'est important de parler d'abord du mal et après on parle du bien et on aime beaucoup ce que vous faites.
On est
quand même fan de ce que vous faites.
Alors, et puis, moi j'ai une question à te poser. Vas-y. Parce que on a l'impression, mais alors là vraiment les podcasts ça n'existait pas il y a 3 ans. Personne faisait de podcast, c'était ringard, etc. Et on a fait le podcast sur Gameblog. Aujourd'hui c'est le podcast de jeux vidéo le plus écouté en France. Et franchement maintenant sur plein de sites de jeux vidéo il y a des podcasts. Et on se demande un peu, est-ce qu'on vous a pas, franchement genre si vous aviez, on s'est pas dit genre c'est un concept incroyable machin, mais est-ce que ça vous a pas donné envie de le faire?
Alors en fait non, parce qu'en réalité la personne donc, qui fait les podcasts, qui crée Alice, qui est Gus, ouais. C'est un homme qui vient de la radio.
D'accord.
Donc à la base il voulait faire vraiment des émissions de jeux vidéo comme émission radiophonique.
Et c'est vachement bien, les gens sont hypnotisés par l'image et franchement est-ce que c'est pas kiffant la radio, les podcasts?
Non mais c'est vrai.
Nous on adore. Hein.
Non mais c'est très très important en plus parce que nous on fait aussi des games radio online où il y a que le son et les gens ont envie de jouer rien qu'en écoutant les gens en train de jouer.
C'est
et c'est assez kiffant parce que les mecs ils ont pas du tout d'image mais quand même ils ont envie de jouer,
ouais.
Donc c'est ça qui est vraiment important.
Beaucoup de choses avec la voix, pas la peine forcément de faire de l'image,
même si on comprend que c'est très important et que par exemple dans le premium, entre autres parmi les options, il y aura le podcast en vidéo parce que ça a été énormément demandé justement par les joueurs et la communauté, etc. Et que justement, bah, on vous écoute, donc il y aura ça entre autres.
Non, alors nous on peut pas mettre de vidéo parce qu'on est une radio. On est une radio, on veut rester une radio, on fait du flux continu, donc il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'est notre concept et puis je pense pas qu'on le changera.
Un jour peut-être.
Un jour peut-être, quand on deviendra Gameblog et qu'on fera du premium.
Voilà. On vous fera la vidéo, vous pourrez la relayer comme ça.
Voilà. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Puis certainement.
Et Metal Gear Solid Peace Walker, franchement, ça défonce. Et honnêtement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un méga fan des Metal Gear. C'est pas vrai, j'adore l'homme Hideo Kojima et pour ce qu'il a apporté. Mais MGS4, ça m'avait vraiment déçu. Bah, Peace Walker, c'est une tuerie.
Merci.
Voilà.
Merci.
À bientôt.
Je suis bavard, je suis désolé. Nous aussi, on est bavards. On aime ça, on aime ça. Alors bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes Jean-Jacques donc de Art Expo,
si j'ai
Art Ludique, excusez-moi.
Art Ludique.
Donc vous occupez des expositions dédiées au thème du jeu vidéo. On m'a donné une expression.
Absolument. Voilà. Enfin, un partenariat avec la FNAC. C'est vrai qu'avec la FNAC, en fait, l'art ludique, comme on l'a appelé, c'est un peu un art qui est issu du divertissement, de l'entertainment. En fait, on a essayé de formaliser ce concept d'art, de dessin et de peinture que l'on retrouve dans le jeu vidéo, mais évidemment aussi dans le film d'animation, dans la bande dessinée. En fait, on s'aperçoit que les grands dessinateurs et quelque part l'art contemporain d'aujourd'hui, figuratif, narratif, c'est à travers ce divertissement-là qu'on le retrouve. Et c'est vrai que cette exposition-là, particulièrement, elle met en valeur ce travail, ce talent, ce génie, quoi. Et la FNAC nous aide à médiatiser considérablement ces artistes-là. Et je trouve que c'est passionnant de montrer la qualité artistique, la dimension et le trait de gens comme Shinkawa, par exemple, que le grand public connaît pas forcément, même s'il connaît très bien Metal Gear. C'est important de montrer, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fait par ordinateur, qu'on appuie sur 4 boutons, que ça. C'est important de montrer que la genèse, c'est vraiment le crayon, le dessin, l'encre de Chine et la passion de génie artistique avant tout.
Ah, effectivement, ça fait des années que Metal Gear Solid, enfin, en tout cas chez nous les gamers qu'on connaît, et c'est pourtant la première fois en 2010 qu'on a une exposition entièrement dédiée au cœur de Paris, entièrement dédiée donc aux œuvres de Kamishima, et surtout en fait la première fois qu'en fait le grand public qui n'est pas du tout gamer va découvrir un art qui est celui du jeu vidéo et où il n'y a pas besoin d'écran pour le voir. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une évolution qui va de plus en plus se démocratiser en France?
Oui, je pense absolument. Mais bon, c'est vrai que la FNAC nous a beaucoup aidé là-dessus. C'est vrai que l'art ludique, enfin, nous, on a une galerie sur l'île Saint-Louis qu'on appelle Art Ludique, justement, où ça fait maintenant 7 ans qu'on essaye de montrer que derrière le film d'animation, le jeu vidéo, se cachent de grands, grands illustrateurs, de grands dessinateurs. Et c'est vrai que la FNAC, en nous aidant à montrer ça sur un plus grand public, puisqu'on retrouve cette expo dans de nombreux magasins FNAC, bah, permet justement de faire partager un peu ce talent et ce génie du dessin ou de la peinture que l'on connaît pas forcément et qui se trouve toujours, en fait. C'est ça qui est la constante et c'est le point commun. C'est que derrière quasiment toute grande production de l'entertainment, il y a toujours du dessin, des recherches, des storyboards, des dessins de concept. Et c'est justement, je pense que c'est un art contemporain légitime, vraiment dans le plus grand sens du terme, que les gens vont petit à petit découvrir. Et je crois que c'est ça qu'on va retrouver finalement dans plusieurs années, mais dans les musées. On aura ça au lieu de monochrome bleu, qui commence à vaciller dans l'art contemporain.
Est-ce que c'est justement c'est Konami qui vous a demandé si on pouvait faire une exposition au sein même de Paris, ou c'est vous qui êtes allé voir Konami qui dit on aimerait bien faire une exposition sur Metal Gear Solid pendant la sortie du dernier opus?
C'est plutôt la FNAC et nous-mêmes qui les avons sollicités, mais c'est vrai qu'ils étaient très partants, qu'ils nous ont soutenus et que après c'est compliqué parce que ça, les dessins viennent du Japon, sont des originaux, c'est très très précieux pour tout le monde, mais particulièrement aux yeux des Japonais et des artistes qui les ont réalisés, de Shinkawa en particulier, c'est sa collection de personnel, de dessins et d'esquisses, donc c'est 15 ans de travail, donc c'est extrêmement précieux, donc c'est vraiment un événement, d'où la difficulté d'avoir des expos comme ça et la rareté, et ça je pense que il faut venir voir ça, absolument.
On vous remercie énormément. Merci beaucoup aussi de nous avoir amené finalement Kojima au sein même de Paris pendant son World Tour ici à la FNAC de Saint-Lazare le 17 juin. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation pour cette exposition. Et on souhaite à tout le monde de venir voir, surtout les gamers et les non-gamers, à venir à cette expo qui est absolument magnifique. Et merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.